Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Ce serait bien que les choses bougent et que les gens prennent conscience que c'est un virus qui tue. Le fait d'être vacciné, ben, c'est super important. Si on veut se sortir de la merde dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ouais, il faut quoi.
Le coup de gueule de Marie, aide-soignante à Lille, elle vient tout juste d'être vaccinée. Marie en première ligne pour soigner les malades du Covid, comme une réponse à ces fêtards encore verbalisés cette nuit à Lille. Nous serons avec les policiers qui les ont contrôlés. Toujours dans le journal de la mi-journée, le député européen Yannick Jadot qui veut que la Commission européenne fasse toute la clarté sur les contrats des vaccins passés avec les laboratoires et qui va saisir la Cour européenne de justice. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Comment monter en puissance pour vacciner plus? Que faut-il penser du vaccin russe? Autant de questions que nous poserons à la présidente du comité vaccin Covid-19, Marie-Paul Kenny, qui est au cœur de la stratégie vaccinale et qui est mon invitée à 12h50. L'eau qui continue à monter à Saintes avec 600 personnes évacuées. Nouvelle manifestation à Rangoon, en Birmanie, encore plus de monde qu'hier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues. L'actualité sportive avec le 100e Classico MPSG ce soir au Vélodrome sur fond de fronde des supporters marseillais. Et puis la météo avec la neige qui arrive au nord, nous avertit Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les injections avec le vaccin AstraZeneca continuent donc au compte-gouttes dans les hôpitaux pour les soignants de moins de 60 ans. À Lille ce matin, c'est Marie, aide-soignante de 40 ans, en première ligne pour soigner les malades du Covid qui a été vaccinée. Marie soulagée, mais Marie qui a aussi un message pour nous tous.
Je me dis que je suis une privilégiée, parce que normalement c'est les plus de 50 ans où c'est à cher, et je saute sur l'occasion, puisque si personne ne le fait, on ne sera jamais débarrassé de ce foutu virus. Quoi. Ça va être la troisième fois où je suis déployée au Covid. J'ai vu des choses qui ne sont pas très jolies, j'ai vu des familles dans la tristesse, dans la peine, et tant que ça ne nous touche pas, les gens ne comprennent pas. Quoi. Les soignants en ont marre, on en a ras-le-bol. Les soignants sont épuisés psychologiquement, les soignants sont fatigués émotionnellement, surtout quand on voit des gens qui n'en ont rien à faire, quand on voit qu'il n'y a aucun geste barrière, qu'il n'y a rien du tout. Et on se dit, mais ils n'ont pas été touchés. C'est pas possible, ils n'ont pas été touchés pour être aussi bêtes. Ce serait bien que les choses bougent et que les gens prennent conscience que c'est un virus qui tue. Là, je me dis, le fait d'être vaccinée, ben, c'est un plus pour moi, quoi. Je vais pouvoir protéger les miens, c'est super important, quoi. Si on veut se sortir de la merde dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que, ouais, il faut, quoi. Il faut.
Voilà les mots très forts de Marie qui interpellent forcément alors que certains se retrouvent pour faire la fête dans de petits appartements parce qu'on le sait aussi, le poids de cette épidémie qui n'en finit pas est lourd à porter, notamment pour les étudiants. Maximilien Carlier a suivi à Lille des policiers qui verbalisaient.
Au dernier étage, fête étudiantine.
Reçu.
Des appels pour tapage nocturne, il n'y a quasiment que ça. Souvent, ce sont des voisins qui alertent la police, excédés par la musique.
C'est dingue, hein, ils font la Java tous les jours.
On est en plein couvre-feu, et bien personne qui dit rien. Moi, je trouve que c'est un manque de respect.
La police.
On retrouve derrière les portes des étudiants en commerce, en chimie, en médecine. Ils sont parfois une vingtaine, entassés dans leurs petits appartements. Pas de distanciation, pas de masque.
Vous connaissez le motif de notre visite?
J'imagine.
Qui est?
Qui est? Bah, tapage nocturne, oui. C'est ça.
Vous êtes donc locataire?
Locataire.
Vous avez une pièce d'identité à nous présenter, monsieur?
Oui, je vais la chercher.
Merci, monsieur.
68 euros d'amende pour avoir fait trop de bruit.
On a besoin un peu d'extérioriser, de déstresser, parce que je trouve que la situation psychologique des étudiants, elle est complètement abandonnée, et je trouve ça dommage.
On compte sur vous pour cesser toute nuisance.
Non, il n'y a aucun problème. On va couper la musique et puis on va aller se coucher. Hein, c'est tout.
Et dans la métropole illoise, il y a chaque nuit plus d'une cinquantaine de verbalisations pour tapage nocturne ou bien non-respect du couvre-feu. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et c'est donc hier que l'on a commencé à vacciner avec le troisième vaccin AstraZeneca. Des vaccins, vous le savez, commandés au niveau de l'Union européenne avec pas mal de retard dans les livraisons. Et ce matin, le leader écologiste Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie Les Verts, a annoncé que son groupe allait saisir la Cour européenne de justice pour faire toute la transparence sur ses contrats passés avec les laboratoires.
On va mettre la Commission européenne devant la Cour européenne de justice parce qu'on considère absolument inadmissible qu'il n'y ait pas de transparence sur les contrats qui sont passés par la Commission européenne avec les grands laboratoires. Vous savez, il y a des règles européennes très strictes sur la transparence de ce type d'informations et que ça participe d'une défiance vis-à-vis de cette période de vaccination. Il faut rétablir la confiance. D'une certaine façon, l'Europe a été très utile parce que sinon la France se serait enfermée avec Sanofi sur les vaccins, mais reconnaissons quand on est à 2,5% de la population vaccinée, quand on est à 10% aux États-Unis, c'est qu'on a fait preuve d'une trop grande frilosité en matière de contrats avec les laboratoires.
Et Yannick Jadot, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Et je vous rappelle donc que dans quelques minutes, je reçois la présidente du comité vaccin Covid-19 qui est au cœur de la stratégie vaccinale, Marie-Paul Kini.
Écoutez Le Monde Changer avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Si l'heure est à la décrue dans une partie du sud-ouest comme à Marmande, où la Garonne a débordé, où nous étions hier dans le journal de la mi-journée, à Saintes, en Charente-Maritime, l'eau continue à monter. Au point que de nombreux habitants ont dû encore être évacués depuis ce matin, Yasmine Akatou.
Oui, pour certains habitants, la Charente est arrivée à quelques centimètres de la porte d'entrée. Au total, depuis le début de la crue, 600 personnes ont dû être évacuées, la plupart hébergées par des proches dans les quartiers épargnés. Comme Adrien, par précaution, il a quitté sa maison avec son épouse et son bébé de 10 jours pour se réfugier chez sa mère.
Aujourd'hui, j'ai plus accès à ma maison. Dès que je me portaille, j'ai 40 cm d'eau à l'extérieur, donc je ne peux pas sortir de ma voiture. Il y a 1,50 m d'eau dans ma cave. Là, il me reste deux marches dans ma cave. Si ça passe ces deux marches-là, après, ça rentre dans la maison. J'espère que ça n'ira pas plus haut et que ça n'atteindra pas ma maison.
Certains habitants sont privés d'électricité et la Charente continue de monter. Ce matin, le fleuve a atteint 6,13 m, une dizaine de centimètres de plus qu'hier, qui inquiète le maire de Saintes, Bruno Trapron.
Aujourd'hui, on est toujours sur une crue qui progresse. La problématique, c'est que maintenant, chaque centimètre compte et chaque centimètre impacte un peu plus de maisons. Donc, on devrait avoir beaucoup plus de personnes qui risquent d'être impactées si ça continue.
Et le pic de la crue devrait être atteint d'ici demain. D'ici là, les eaux devraient monter jusqu'à 6,30 m. La décrue devrait s'amorcer d'ici 48 heures.
Yasmine Akatou, merci. Nous verrons dans quelques minutes avec Valérie Darmon si la pluie va se calmer aussi sur le front des inondations. C'est donc le début des vacances scolaires et la porte-parole du ministère de l'Intérieur a bien répété ce matin sur Europe 1 que si vous prenez la route, il n'y aura pas de tolérance si vous restez coincé dans les embouteillages et que vous arrivez à destination après le couvre-feu. Mais encore faut-il partir en vacances. Bonjour Richard Venopoulos.
Bonjour.
Président du réseau d'agences de voyage Tourcom, premier réseau d'agences de voyage en France. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Est-ce que justement les Français sont partis? Je crois que normalement c'est 20% de Français qui partent en février.
En moyenne, c'est à peu près 20% de Français qui partent en février, mais là, il y a à peu près peut-être 5 ou 6% seulement qui ont pu partir.
Et ils sont partis où quand ils ont pu partir? Généralement, la destination favorite, c'est la montagne. Est-ce que c'est le cas cette année?
Alors pas du tout, hein, parce que là, c'est le ski qui est primordial et quand il n'y a pas de ski, les Français ne partent pas. Donc il y a très très peu de personnes dans les stations de montagne, peut-être dans les stations de base de bas niveau. Il y a un petit peu par contre sur la PACA ou un tout petit peu sur la Corse, mais en fait c'est plutôt des déplacements familiaux ou chez les amis, mais très très peu. Les gens sont assez démotivés, rien que par exemple de dire que si vous dépassez l'horaire pour le retour de 18h, alors qu'il y a des bouchons, c'est déjà illégal cette façon de faire. La loi n'interdit absolument pas de rentrer à 18h à partir du moment où vous avez calculé le temps nécessaire pour rentrer d'une destination à une autre destination. Donc ça démotive complètement les vacanciers.
Alors justement, pour l'instant, pas de reconfinement. On peut circuler entre les régions et pourtant, vous le dites, ça n'incite pas forcément les Français à bouger ou à réserver des locations. On a vu par exemple, et je terminerai avec ça, à Nice, le maire qui a pris d'ailleurs un arrêté pour interdire les locations saisonnières.
C'est la démagogie, parce que quand on voit M. Estrosi prendre ce genre de décision, d'abord il est maire, s'il n'est pas préfet. Ensuite, encore une fois, comme l'État l'a fait il y a une semaine, en disant le vendredi soir pour le samedi, les frontières vont être fermées. Il y a un an, on avait dit aux restaurateurs, on ferme du jour au lendemain, donc c'était la nourriture qu'on jetait. Là, on a jeté les agences de voyage et surtout les clients. C'est un manque de respect total. Et les personnes dépensent beaucoup d'argent, parce que quand vous avez des locations, que vous avez des contrats, il faut remplir le contrat. Et si vous ne le remplissez pas, vous devez rembourser les clients avec des indemnités. Donc ce que fait M. Estrosi est totalement démagogique et c'est même du populisme de la façon de le faire. C'est irresponsable.
Merci beaucoup Richard Venopoulos. Je rappelle que cet arrêté doit être attaqué normalement devant le tribunal administratif d'ici demain. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce midi.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
À l'étranger, nouvelle manifestation ce matin dans les rues de Rangoon, alors qu'une partie du réseau Internet fonctionne de nouveau selon les ONG. Et surtout, ce qui est marquant, Jean-Sébastien Soldaini, encore plus de monde qu'hier.
Oui, ces manifestations prennent de l'ampleur, toujours portées par la jeunesse, et ce signe des trois doigts levés vers le ciel, symbole de rébellion emprunté au personnage de la série américaine Hunger Games. C'est aussi un signe de distinction entre l'élite et le peuple, déjà vu lors de manifestations. En Thaïlande, plus de 100 000 personnes ce matin dans les rues de Rangoon, capitale économique, là où il n'était que 3 000 hier à la même heure. Les Birmans se sentent peut-être rassurés par la façon dont cela s'est passé hier. Aucune violence lorsque les manifestants criaient « Abat la dictature, respectez notre vote !» Car ils sont nombreux désormais à l'affirmer sur les réseaux sociaux, à l'afficher « J'ai voté pour le LND, le parti d'Aung San Suu Kyi ». Ils réclament sa libération, évidemment. Quelques témoignages commencent à arriver car les communications et Internet ont été rétablis. Des tirs de la police avec des balles en caoutchouc sont rapportés par endroits. Difficile à confirmer pour l'instant. J'ai brièvement pu échanger il y a quelques instants avec une jeune étudiante de Rangoon. C'est la première fois qu'elle manifestait, m'a-t-elle dit. Première fois qu'elle voyait ce genre de rassemblement. Et pour cause, le dernier mouvement d'ampleur dans le pays remonte à 2007. Il y a 14 ans, un mouvement baptisé la Révolution Safran. Cette couleur portée par les moines birmans sur leurs vêtements, ce sont eux qui avaient porté plusieurs mois de manifestations à travers tout le pays, fortement réprimées. Ils n'avaient entraîné aucun changement politique.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Et ce midi, le pape apporte son soutien au peuple birman. Le pape exprime sa solidarité. Toujours à l'étranger, au moins 3 personnes ont été tuées, 150 portées disparues après la crue d'une rivière dans le nord de l'Inde. Crue provoquée par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. L'actualité sportive est entrée en scène de Julien Froment parce que c'est aujourd'hui le fameux Classico MPSG 100e édition et on va dire ça s'annonce chaud hein, Julien parce que il faut pas oublier que le club marseillais doit faire face à l'affront de ses supporters depuis une semaine maintenant.
Ouais, exactement, 8 jours de crise intense, un coach démissionnaire, vous l'avez dit, des supporters à cran et puis la nouvelle recrue, l'attaquant polonais Milik Forfait. Le match contre le PSG a quand même des allures de mission impossible pour l'Olympique de Marseille, mais Nasser Larguet, entraîneur intérimaire de fortune hein, qui a dû remplacer André Villas-Boas au pied levé cette semaine, sait que les joueurs n'auront pas besoin d'être motivés.
C'est un match, il n'y aura pas beaucoup de discours à la causerie avec les joueurs. La motivation va être tout à fait naturelle. C'est un de leurs matchs de la saison. Hein. C'est, entre guillemets, notre Champions League de championnat.
Ouais, justement, du côté du Paris Saint-Germain, on aborde ce choc avec prudence. Le défenseur Alessandro Florenzi.
Ça va être un match difficile. C'est un classique et ils vont jouer leur vie sur le terrain. Nous voulons gagner ce match pour améliorer notre classement, mais aussi jouer pour les supporters de Paris.
Et bonne nouvelle de dernière minute, le Brésilien Neymar, victime d'une gastro au lendemain de son anniversaire, figure bien dans le groupe, un groupe au quasi complet qui va tenter d'étirer son invincibilité au Vélodrome qui dure depuis presque 10 ans. La dernière défaite parisienne à Marseille remonte à novembre 2011.
Merci beaucoup Julien Froment. Autre match de cette 24e journée Nantes-Lille à 17h. Je vous rappelle que Lyon est toujours en tête provisoirement après sa victoire 3-0 face à Strasbourg. En rugby, Pays de Galles-Irlande à 16h dans le tournoi des 6 nations. Et on le rappelle, hein, le 15 de France qui a superbement bien commencé son tournoi en écrasant l'Italie hier 50-0 à Rome. Et puis vous le savez, l'événement de la nuit prochaine, c'est bien sûr la finale du Super Bowl à Tampa en Floride aux États-Unis entre les Buccaneers de Tampa et les Chiefs de Kansas City. Et le... Non, ils ont écrasé, mais comme vous le soulignez, Julien, vous avez raison, c'est 50-10. Oui, j'ai été un petit peu trop sévère quand même avec les Italiens. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Est-ce que la pluie déjà va se calmer sur le front des inondations, Valérie Darmon ?
Oui, oui, tout à fait. Hein. Ça commence déjà à se calmer. C'était le cas ce matin hein, sur tout le sud-ouest jusqu'en Charente. Et cet après-midi, vous allez même retrouver quelques vagues éclaircies hein, sur la partie nord de ce sud-ouest, hein, du côté des Charentes et de l'estuaire de la Gironde. En revanche, les averses vont reprendre sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. On a aussi les vigilances orange, neige et verglas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui viennent d'être levés. Et 8 départements qui restent en alerte crue puisque l'Aisne n'y est plus. Donc, petite amélioration sur la partie nord de la France aussi. Donc la neige arrivée la nuit dernière sur le Nord-Pas-de-Calais va continuer de tomber très faiblement. D'ici ce soir, il sera tombé l'équivalent de 5 cm de neige sur l'Artois, le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Au fil de la journée, c'est un régime d'averse qui va se mettre en place avec du grésil, de la pluie et de la neige mêlée. Et ce type de temps va affecter aussi la Basse-Normandie, la région du centre et la région parisienne aussi, où il peut toujours neigeoter un petit peu, notamment en Seine-et-Marne, avec 1 à 2 cm attendus. En Bretagne, Bretagne, donc jusqu'en Charente, les averses sont de moins en moins fréquentes. Et puis dans le Grand Est, les précipitations peuvent se développer sur la Champagne, les Ardennes, avec de la neige aux alentours de 300 mètres, sur le massif vosgien, 900 mètres ce matin, cet après-midi 700. Sur le littoral méditerranéen en Provence, le ciel qui redevient variable et sec avec quelques belles éclaircies et des maximales qui commencent leur baisse, une baisse qui va se confirmer toute la semaine, surtout sur la moitié nord. On va peut-être même parler de petites vagues de froid. Donc c'est maximal entre 2 à Lille et 15 degrés à Montpellier pour cet après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
À suivre, grand témoin de ce journal, Marie-Paul Kenny, directrice de recherche à l'INSERM, mais surtout présidente du comité vaccin Covid-19, donc au cœur de la stratégie vaccinale, alors que vous le savez, on a commencé à vacciner avec un troisième vaccin en France.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Les premières doses du vaccin AstraZeneca ont donc été injectées hier en France. Troisième vaccin autorisé dans notre pays, mais pas pour les plus âgés, pas au-delà de 65 ans et pour l'instant réservé en priorité aux soignants. Bonjour Marie-Paul Kenny.
Bonjour.
Présidente du comité vaccin Covid-19, directrice de recherche à l'INSERM, au cœur de la stratégie vaccinale. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous ce midi sur Europe 1 pour nous éclairer. Je le disais, premières injections du vaccin AstraZeneca, alors que cette semaine, le président Macron a reçu à l'Élysée les responsables des laboratoires pour accélérer la production de doses, puisque son ambition, c'est que d'ici la fin de l'été, on puisse proposer à chaque adulte en France un vaccin. Vous nous direz d'ailleurs si cet objectif ambitieux est tenable. Mais d'abord sur ce vaccin AstraZeneca, dont on a bien compris l'atout, plus facile à se conserver parce qu'on peut le mettre au frigo. Est-ce qu'il n'a pas tout de même des limites? Il n'est pas aussi efficace sur les plus âgés, les plus fragiles. Notamment en France, on ne vaccinera pas avec les plus de 65 ans. Et c'est encore plus limité en Espagne, puisque là, on ne vaccinera pas les plus de 55 ans.
Alors bon, chacun essaye de voir au mieux et de prendre des décisions en fonction des données qui sont disponibles. Et il faut avouer que les données disponibles autour du vaccin AstraZeneca ne sont pas tout à fait claires, notamment dans l'étude qui a été publiée. Donc c'est un essai clinique de grande taille qui a inclus très peu de personnes âgées. Donc en fait, c'est difficile de dire à ce stade-là si le vaccin va être efficace sur les plus de 65 ans ou s'il ne va pas l'être. Et c'est donc en fonction de cette incertitude qu'en Europe, plusieurs pays ont décidé de réserver donc ce vaccin à des personnes de moins de 65, voire même moins de 55. Et d'ailleurs même les autorités de réglementation suisse ont décidé d'attendre les résultats d'un autre essai clinique qui est en cours actuellement aux États-Unis et qui devrait donner des résultats au mois de mars.
Voilà pour l'efficacité par rapport à l'âge. L'autre question, c'est l'efficacité de ce vaccin, l'AstraZeneca, sur les variants, notamment variants anglais, variants sud-africains, qui gagnent du terrain chaque jour.
Alors, il semble quand même qu'un consensus se fasse jour pour que les vaccins qui ont été développés contre ce qu'on peut appeler un prototype Wuhan, hein, le virus qui nous vient de Chine, que ces vaccins soient efficaces également contre le variant dit anglais, ou s'il y a une perte d'efficacité, qu'elle soit faible. Alors, on a beaucoup plus d'incertitudes vis-à-vis des variants qui circulent beaucoup, en fait, en Afrique du Sud. C'est là qu'on commence à avoir des données. On voit que les essais cliniques qui ont été réalisés sur des populations où ce virus circule sont moins protecteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas du tout, mais ils sont moins protecteurs. Et donc, on pourrait passer d'une protection qui va pour les vaccins ARN à 95%, à une protection qui est plus près de 50%, et peut-être 40% pour le vaccin d'AstraZeneca. Mais, encore une fois, les données qui sont disponibles sur l'activité du vaccin AstraZeneca en Afrique du Sud sont des données faibles parce que, en fait, les populations qui ont été vaccinées sont très peu nombreuses. Et donc, je pense qu'on essaye malgré tout, avec le vaccin AstraZeneca, de faire dire aux données chiffrées ce qu'elles ne nous permettent pas encore de dire.
Alors Marie-Paul Kenny, je rappelle, présidente du comité vaccin Covid-19, vous épluchez toutes les études justement de ces essais avec tous ces vaccins qui apparaissent, j'ai envie de dire, sur le marché. Il y en a un dont on a beaucoup parlé cette semaine et c'est Emmanuel Macron qui en a parlé, c'est le vaccin russe. Il a dit qu'on pourrait très bien l'utiliser en France, il était homologué. Je me souviens qu'en décembre, à ce même micro, vous nous aviez parlé de ce vaccin parce que vous rentriez de Russie, vous nous aviez parlé des premiers résultats. Certains doutaient de son efficacité. Vous disiez que c'était très intéressant. Cette semaine, le Lancet dit que ce vaccin russe est efficace à 91%. C'est mieux finalement même que le vaccin avec lequel on vaccine en ce moment.
Alors, moi j'ai toujours cru que ce vaccin était efficace puisque nous avons vu les données quand nous avons visité Moscou et l'Institut Gamaléa qui est donc l'inventeur de ce vaccin. Ils nous ont présenté leurs données à la fois en modèle animal et les données chez l'homme et la mission scientifique était rentrée avec la conviction que ces données étaient réelles et que ce vaccin était efficace. C'est vrai qu'il a des avantages de mise en œuvre puisque comme le vaccin AstraZeneca, il peut être gardé à une température de réfrigérateur. Il a une petite difficulté supplémentaire d'utilisation puisque en fait, il s'agit donc d'un vaccin qui se donne en deux administrations, comme les autres, mais les deux administrations doivent être faites avec un produit différent. Alors ça complexifie un peu l'utilisation puisqu'il faut être bien sûr de savoir au moment où on vaccine si on donne une première dose ou une deuxième dose. Ceci dit, la limitation pour le moment pour l'utilisation en Europe du vaccin Sputnik V est qu'il n'est pas enregistré et qu'il faut laisser le temps à l'autorité de réglementation du médicament pour regarder le dossier complet qui contient beaucoup plus de choses que juste les résultats des essais cliniques et de l'efficacité. C'est important, évidemment, mais l'agence de réglementation est là pour assurer la sécurité aussi de tous les citoyens européens et donc elle va se pencher sur tous les aspects de la fabrication, de l'origine, du développement, des matériaux biologiques qui ont été utilisés pour la production de ce vaccin et ce n'est qu'à l'issue de cet examen rigoureux que cette autorité pourra donc nous dire s'il y a des zones d'ombre ou s'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, effectivement, ce vaccin pourrait être utilisé en Europe.
Et on peut imaginer vacciner avec le Sputnik V dans combien de temps en France ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal. L'examen par l'autorité de réglementation va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, vraisemblablement. Après ça, il y a aussi des problèmes de limitation de production. Alors, on voit que c'est ça qui freine pour le moment les campagnes de vaccination, c'est que les producteurs ne sont capables de livrer qu'une partie des vaccins qu'on voudrait utiliser. Donc, en fait, il y a une tension entre l'offre et la demande, surtout qu'en France, maintenant, la population et nos concitoyens sont beaucoup plus intéressés à se faire vacciner que ce qu'on craignait. Donc, on a un problème d'approvisionnement. Alors, il ne faut pas croire que pour le vaccin Sputnik V, eh bien, ça va être différent.
Marie-Paul Kenny, vous nous parlez des tensions justement entre l'offre et la demande, effectivement de l'appétit des Français désormais à se faire vacciner. Cette semaine, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée des laboratoires pour leur dire qu'il fallait accélérer cette capacité de production. On avait par exemple Sanofi allait mettre ses chaînes de production en Allemagne au service du vaccin Pfizer-BioNTech. Ça va prendre du temps d'ailleurs. Ça nous rappelle que Sanofi n'a pas réussi à développer un vaccin français. La faute à qui ? À quoi ? Je dis ça parce qu'en plus, il y a eu toute cette polémique cette semaine autour du versement des dividendes de Sanofi à ses actionnaires. Sanofi n'a pas voulu prendre le risque d'un vaccin ? C'était pas assez rentable ?
Oh, alors là, oui, bien sûr. La plupart des grandes compagnies, des multinationales, ont été très frileux pour s'engager dans le développement de vaccins Covid, sauf, je dois le souligner d'ailleurs, la société Janssen. Et les uns et les autres ont racheté au fil de l'eau en fait les propriétés ou se sont associés avec des sociétés beaucoup plus petites qui elles s'étaient lancées beaucoup plus tôt. Alors on voit AstraZeneca qui développe le vaccin développé par l'université d'Oxford, Pfizer est marié à BioNTech, une petite société allemande, etc. Et Sanofi a décidé de développer leur propre vaccin, qui n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, c'est un vaccin tout à fait classique qu'ils développent, qui a priori devrait être efficace. Le problème, c'est que Sanofi a eu un petit moment d'inattention, si je pourrais me dire ça, dans le développement du vaccin, et ils ont développé un vaccin qui était malheureusement, et à leur insu, en fait, moins dosé, si je peux dire, que ce qu'ils voulaient, et donc un vaccin qui n'était pas efficace, vraisemblablement, chez les personnes âgées. Donc, ils ont dû recommencer, pas à zéro, mais presque. Ceci dit, je pense néanmoins qu'ils vont arriver à développer un vaccin. Il y a toute chance que ce vaccin soit efficace. S'il y a des variants préoccupants qui se développent, on aura peut-être besoin à un moment de faire un rappel avec un autre vaccin qui, lui, serait peut-être plus protecteur contre un variant. Encore, je ne veux pas dire que pour le moment, les vaccins qu'on a ne sont pas protecteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, des vaccins, on en aura encore besoin et j'espère que le vaccin de Sanofi aura toute sa place.
Alors justement, Marie-Paul Kenny, si on veut accélérer cette vaccination, c'est pour prendre de vitesse l'accélération possible des contaminations à cause du variant, pour éviter aussi un confinement. C'est possible ou c'est illusoire? Je dis ça parce que ce matin, dans le journal du dimanche, le professeur Arnaud Fontanet du comité scientifique dit que sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces.
Alors, comme je vous disais, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas spécialiste S-confinement. Mais je note, comme d'autres, en disant toujours, on ne sait pas bien pourquoi, qu'il semble y avoir une décroissance, en fait, de l'avancée de la pandémie de par le monde. On voit des baisses significatives aux États-Unis, on voit des baisses en Inde, on voit des baisses dans beaucoup de pays. En Suisse, où je réside, on a une épidémie très plate depuis maintenant plusieurs semaines. En France, on voit qu'on est sur une situation stable. Et donc, on ne comprend pas tout. Alors, peut-être est-ce parce que, avec le nombre d'infections qu'on a eu un peu partout, on n'est pas à une immunité de population, mais on a peut-être une immunité qui fait que ça avance moins vite. Et donc, à mon avis, pour savoir s'il faudra un confinement ou pas, il faut encore attendre, être attentif aux signes. Mais je pense que il est possible qu'on en ait peut-être pas besoin.
Merci beaucoup Marie-Paul Kenny, je rappelle présidente du comité vaccin Covid-19, d'avoir été avec nous sur Europe 1 une nouvelle fois pour nous éclairer sur ces vaccins, sur cette épidémie qui garde encore beaucoup de mystères, vous nous le dites encore ce midi. Merci infiniment.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Et puis vous le savez, on poursuit cette tranche d'information avec les carnets du monde à 13h avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, au programme aujourd'hui.
Bonjour Fabienne. Parmi les reportages du jour, il y a notamment une formidable enquête menée auprès de ceux qu'en Irlande on appelle les survivants, des dizaines de milliers de filles-mères et leurs bébés qui ont été cloîtrés dans des institutions religieuses dans des conditions inouïes jusqu'en 1998. Un quotidien fait de maltraitance, parfois de viol, de vol d'enfants aussi. L'État irlandais a présenté ses excuses le mois dernier, dossier incroyable avec encore beaucoup de zones d'ombre, vous l'entendrez.
Merci Sophie, à tout de suite.
Europe 1, il est 13h. L'information, c'est avec Fabienne Lemoyle.
Les injections avec le vaccin AstraZeneca continuent donc au compte-gouttes dans les hôpitaux pour les soignants de moins de 60 ans à Lyon hier après-midi, à Lille ce matin. Notez que le leader écologiste Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie des Verts, a annoncé ce matin sur Europe 1 que son groupe va saisir la Cour européenne de justice pour que toute la transparence soit faite sur les contrats passés par les laboratoires avec la Commission européenne. Sur le front des inondations, si l'heure est à la décrue dans une partie du sud-ouest comme à Marmande, la Garonne, où la Garonne a débordé à Saintes en Charente-Maritime, l'eau continue à monter, plus de 6 mètres déjà au niveau de la Charente et au moins 600 personnes qui ont dû être évacuées. De nouvelles manifestations à Rangoon en Birmanie, plus de 100 000 personnes dans les rues aujourd'hui et le pape qui a exprimé son soutien, sa solidarité ce matin avec le peuple birman. L'actualité sportive dominée par le 100e Classico OM-PSG ce soir au Vélodrome sur front de fronde des supporters marseillais. Coup d'envoi à 21h. 13h02, tout de suite les carnets du monde.
Europe 1. Écoutez le monde changer.